L'exemple est très récent, puisque tu as parlé du CO2 et de son augmentation inéluctable, quoi qu'on fasse. L'idée est venue à beaucoup de gens, physico-chimistes en particulier, est-ce qu'on ne pourrait pas piéger ce CO2? Parce qu'après tout, le CO2, une fois qu'il est comprimé, il est très dense, et puis on peut le mettre. Alors,
Pas au fond de
ceci,
l'eau. Le mettre pas au
oui,
fond de l'eau.
attends, attends, attends. Depuis un an ou deux, c'est très récent, il y a un exemple réel, la compagnie norvégienne Statoil, qui exploite des puits, a décidé de recomprimer le CO2 et de l'injecter dans les puits. Ce qui a un avantage économique, c'est que ça augmente la productivité des puits et on se débarrasse de cette façon du CO2. Alors, ceci a un coût. Pourquoi Statoil, qui n'est pas une organisation de bienfaisance ni d'éthique, fait ça? Tout simplement parce qu'il y a intérêt. En effet, elle a, je réponds à votre question, un droit de polluer et tout ce qu'elle pollue. D'ailleurs, des Russes émigrés, des chimistes, des thermodynamiciens, qui ont développé un procédé qui permet d'absorber le CO2 à la sortie des grosses centrales qui brûlent du fioul. Et là encore, j'ai demandé quel était le prix de revient, ben c'est environ 20 dollars la tonne. Alors 20 dollars la tonne, il faut vous dire que le pétrole, c'est à peu près 200 dollars la tonne, hein, 7 barils. Bon. Donc ça fait 10%. Alors, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup? Il est absolument certain que si vous n'avez pas d'incitation, tout le monde refusera.
Absolument.
Là, encore une fois, la même société Statoil est d'accord pour étudier ça, parce qu'elle y gagne de l'argent, parce qu'il y a justement ces droits de polluer qui ont l'air d'être une aberration, mais qui en fait donnent une incitation à faire des
On nous fera
économies.
payer. Oui. Les pollueurs non payeurs.
Ah oui,
Pollueurs
bah,
payés.
ça,
Pollueurs
c'est
payés.
la dialectique. Si on pollue moins.
Une autre question là.
Oui, merci. Bernard Pau, de Montpellier. La deuxième partie de votre exposé a excellemment illustré le fait que nous ne sommes pas sortis de l'ère du feu, tel qu'illustré par Roni Aîné dans La guerre du feu, où en fait l'essentiel de l'activité de l'homme consiste à conquérir au détriment de l'autre et en accentuant sa mainmise sur la terre. Et même si aujourd'hui se pose le problème de l'eau, il se pose dans les mêmes termes que celui de la guerre du feu, c'est-à-dire. La poursuite d'une conquête qui à la fois accentue la fracture entre celui qui a et celui qui n'a pas, et de plus, et c'est là que c'est profondément immoral, et de plus crée le problème secondaire qui va devenir dominant, celui du déchet créé par la conquête elle-même. Alors on peut imaginer peut-être que seule la conception, c'est peut-être l'un des aspects du Graal de cette conquête, la conception d'une source d'énergie totalement inépuisable au sens où elle serait infiniment distribuable, sans fracture entre celui qui a et celui qui n'a pas, atténuerait cette ferait passer notre histoire de la guerre du feu à la conquête de la distribution de l'intelligence à travers la distribution de l'énergie, ferait coïncider les deux histoires. Et ce qui me paraît, je voudrais revenir à quelque chose qui m'a paru extrêmement symbolique, c'est l'une de vos planches où vous avez dessiné les termes du conflit. Il y a les deux cercles, il y a la Terre originelle en bas à droite
Oui.
et en haut à gauche, il y a la Terre technologique, celle finalement qui a été progressivement dessinée par la main de l'homme et qui apparaît maintenant aux yeux de l'homme. Voilà, la technosphère. La technosphère finalement, c'est le produit de notre activité tel qu'il nous apparaît à nous-mêmes et tel qu'il nous révèle nous-mêmes. Je voudrais prendre, si vous le permettez, une petite image que j'utilise souvent pour enseigner l'immunologie, pour faire appréhender aux étudiants l'indissociable lien qu'il y a entre l'émergence du soi et la relation à un corps social. Puisque vous savez que sur le plan immunitaire, nous sommes des êtres individuels et en même temps, nous ne pouvons pas manquer d'appartenir à une espèce et que le propre même du système immunitaire est de maintenir l'espèce plutôt que l'individu. L'image est la suivante, c'est l'émergence de la conscience d'être chez le petit enfant. En gros, on le situe vers un an et demi. C'est à peu près vers un an et demi que l'enfant, si vous lui faites une tache rouge sur la joue, et qu'il pose la main sur cette tache rouge et s'il se voit dans un miroir, commence à percevoir la fracture entre le monde environnant et lui-même, et donc naît la notion du soi étant en distinction avec le monde. Et en même temps, à ce moment-là, à partir de là, lui vient la notion que son développement individuel est indissociable de sa relation au monde. Donc c'est à la fois la fracture et la liaison. Je me pose la question de savoir si, je résume beaucoup, là, je me pose la question de savoir si nous ne sommes pas exactement vers, peut-être, j'espère, la fin de l'ère du feu, à cette époque-là de l'histoire de l'humanité, où lui est donnée pour la première fois la possibilité de se savoir étant, non plus né de l'imaginaire, où l'humanité pourrait s'imaginer étant, mais où, véritablement, dans un miroir qui est créé par sa propre production, sa déchetterie, hein, planétaire, c'est-à-dire la technosphère, elle lui donne enfin matière à se voir et donc à apparaître comme un soi étant qui soit plus seulement individuel, mais qui soit l'espèce humaine dans sa globalité. Et si c'est le cas, si on en est à ce stade-là, ça crée indéfectiblement deux termes, c'est la solidarité et la responsabilité. Donc peut-être que nous pouvons examiner la question, si vous voulez, de cette quête d'énergie et de ce rapport au futur comme un rapport nécessairement solidaire, parce qu'un rapport qui nous engage dans une responsabilité collective dans cette relation du soi étant au monde.
Je crois que c'est inévitable, en tout cas c'est le but ultime, mais qui n'est pas simple. Qui n'est pas simple parce que pour l'instant, on n'en voit même pas les prémices, c'est-à-dire que les modèles que nous donnons, nous, les modèles de civilisation et de développement technique, peut-être au départ d'ailleurs pour conquérir des marchés, mais les modèles que nous donnons aux pays en voie de développement sont notre modèle. Et donc nous n'avons pas pour l'instant la possibilité même d'envisager une redistribution réelle des ressources. On peut envisager très rapidement, et je crois que c'est l'essentiel, une redistribution du savoir et de la connaissance. Et donc la possibilité, et là encore il y a un hystérésis, la possibilité de développement et même d'acquérir un développement pour certaines collectivités qui dépassera éventuellement le nôtre, et d'avoir la possibilité d'avoir accès à la connaissance. C'est long, mais c'est la seule solution. Je pense que si on ne passe pas par cette étape de redistribution de la connaissance à la surface du globe, nous maintiendrons la vraie fracture sociale. C'est celle-là, la vraie. Et cette fracture sociale, c'est une bombe. C'est une bombe. Supposer que ces pays un peu forcenés aient deux ou trois bombes atomiques, elles nous reviennent sur nos latitudes. Michel, t'es pas d'accord avec moi.
Moi, j'ai deux petites choses à ajouter. En effet, le problème du savoir et le problème de l'économie ne sont pas complémentaires, mais opposés. C'est tout simple. Si j'ai 100 francs dans la poche, et si tu n'as pas 100 francs, j'ai 100 francs et tu n'as pas 100 francs. Bon. Je prends les 100 francs, je te donne les 100 francs, à ce moment-là, je ne les ai plus, et tu les as. On appelle ça un jeu à somme nulle. Hein. Bon. C'est-à-dire que là, il y a un échange de biens. Ça, c'est la logique de l'économie, de l'échange. Mais si j'ai dans la poche, c'est-à-dire dans l'esprit, le théorème de Thalès, et que tu ne l'as pas, nous sommes exactement selon le même schéma. J'ai le théorème de Thalès, tu ne l'as pas. Puis je te donne le théorème de Thalès, et tu l'as. Attention, je l'ai encore.
C'est ça la sortie
Donc,
de l'ère du feu.
Par l'échange, voilà. Le savoir joue un jeu qui est l'inverse du jeu de l'économie.
Exact.
Ce qui nous oppose, nous, gens de savoir, et les gens de l'économie, c'est que le partage du savoir multiplie le savoir, tandis que le partage des biens ne multiplie pas les biens. Voilà, la vraie différence, elle est là.
Absolument.
Donc, le partage est toujours possible du savoir, et donc l'expansion du savoir telle que Yves le décrit, dépend très exactement du fait que le savoir ne dépend pas de l'économie. Si le savoir dépend de l'économie, alors il est dans sa logique. OK ? Et là, l'échange, effectivement, ne se multiplie pas. S'il est hors de l'économie, alors là, il se multiplie.
D'autant plus que le coût du savoir
est
minime.
Je démontre là que le savoir est sans coût.
Oui, de lui-même, mais les conduits. Le faire sont.
C'est toute la question. Ça, c'est la première logique. Oui, alors la question des brevets, ça montre qu'on fait venir le savoir dans l'économie. Alors, ça, c'est la première chose que je voulais dire, qu'il y a deux logiques très différentes. Et la deuxième, du point de vue, tu pourrais rallumer peut-être. Oui. La deuxième, c'est comment se fait-il, c'est quand même étrange, que d'autorité, on mette le conflit entre l'écosphère et la technosphère, car enfin, nous avons connu des techniques où il n'y avait pas de conflit que je sache, à l'époque du cueilleur-chasseur dont nous entretiendra demain Yves Coppens, il n'y avait pas du tout de conflit, à ma connaissance du moins, entre l'écosphère et la technosphère. Donc il y a un moment où le conflit est intervenu. Il faut donc calculer ce moment. Et est-ce que ce moment peut s'arrêter? Bien, c'est ce que j'ai proposé il y a une dizaine d'années, en disant, au lieu de marquer le conflit, de se dire, il n'y a pas de conflit qui ne se termine par un armistice. Or, qu'est-ce que c'est qu'un armistice? Ça s'appelle en général un contrat. Et ce que j'ai proposé dans un livre, c'est de mettre le contrat, et non pas le conflit. C'est ce que j'ai appelé le contrat naturel. Et le contrat naturel, ça voulait dire justement, arrêt du conflit, parce que finalement, le conflit n'est pas naturel. Il a été introduit par nous de façon volontaire à un certain moment et dans certaines circonstances, et qu'on peut imaginer l'arrêt de ce conflit. Oui.
Et c'est le compromis, et c'est le vrai compromis valable.
Non, c'est, moi, à mon avis, ce n'est pas un compromis. Il faudra une invention absolument considérable pour trouver quelles sont les conditions du contrat et les conditions de l'arrêt du conflit. Et le plus grand philosophe du monde sera celui qui, demain, trouvera quelles sont les conditions de l'arrêt du conflit et de la réinvention du contrat.
Oui, juste un petit commentaire, je suis évidemment tout à fait en phase avec cette vision. S'il y a un terme de conflit, c'est provisoire, lié à l'émergence du soi. Je crois que c'est globalement l'espèce humaine qui est en train d'assister à l'émergence de son propre soi étant. Donc c'est un conflit provisoire qu'il faut se résoudre parce qu'il faut absolument qu'on apprenne à vivre avec soi-même, tout simplement, non plus seulement au niveau individuel, mais au niveau de l'espèce entière. Et si les termes, pour le moment, sont opposés, les termes de la diffusion de l'intelligence et de l'économie sont opposés, c'est également provisoire, c'est parce que les termes de l'économie sont provisoirement les termes de la conquête. Et les deux vont se rejoindre. Oui.
Non, non, je veux dire simplement que quand ça rejoint tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur le pollueur-payeur, c'est-à-dire sur la question de la pollution, pourquoi ramène-t-on toujours tout à l'équivalence argent? Car enfin, il y a dans l'acte de polluer quelque chose qui me paraît très difficilement réductible à l'acte de payer. Quel est le rapport qu'il y a entre un dommage fait à l'environnement et une somme d'argent en euros ou en dollars? Je ne vois pas le rapport. Pourquoi y a-t-il un rapport? Eh bien, si on analysait vraiment le rapport entre le dommage de l'environnement, on retrouverait là une question concernant le conflit. Il n'y a conflit que parce qu'il y a échange. Voilà. Et il y a échange d'un certain type de choses. Attention, pas de l'échange de tout, hein.
C'est là où l'éthique doit jouer un rôle, parce qu'elle définira aussi, à ce moment-là, des règles de conduite et des priorités humaines qui n'ont pas forcément à voir avec l'état actuel d'une économie de marché comme elle est. Il y aura toujours une économie de marché, je pense que les développeurs en ont besoin, et nous aussi. Je pense que c'est certainement comme ça que le monde peut continuer à se développer, mais avec peut-être des garde-fous, ou avec une série de contrats, Michel. Peut-être que ce sera un premier contrat, puis un deuxième, en fonction de l'évolution de nos seuils de tolérance et de notre éthique des limites, qui fera qu'on adaptera, et l'adaptation à la place de ce conflit, d'une série de contrats qui vont dans le bon sens, sera une solution. L'ennui, c'est qu'à l'heure actuelle, on n'a pas pris cette démarche-là du tout. On a pris une démarche, pour l'instant, qui est une démarche de statu quo, et d'essayer de freiner les conséquences plutôt que de les affronter, parce que pour des raisons de marché, elles nous paraissent difficilement tolérables.
C'est-à-dire la seule chose que ne prévoit pas l'ensemble des courbes présentées par Yves, c'est l'invention tout à coup d'une nouvelle technologie.
Et qui arrivera.
Qui ne serait pas de l'ordre du feu. Comme
voilà, et qui arrivera, et qui sera unifiante, comme la technique des plagues a été unifiante pour les géologues. C'est vrai, ça c'est... Oui,
Charles.
Moi je trouve l'opposition entre la logique de la connaissance et la logique de l'économie... Je ne la vois pas comme une opposition. À un moment, tu as même dit que c'est l'inverse.
D'une certaine manière, c'est l'inverse.
Je ne crois pas que ce soit vraiment l'inverse.
C'est peut-être pas l'inverse. Oui.
Bon, alors reprenons ton exemple. Tu parlais de l'échange des billets. Bon, oui. D'accord. Ça, c'était clair et net. Par contre, sur l'échange du théorème de Thalès, je dirais encore faut-il pouvoir l'échanger. Donc il faut quand même qu'il y ait des conditions,
il y a des conditions.
De la vie.
Qu'on ait la même langue, qu'on se comprenne.
Qui donc nous ramène à l'économie. Donc ce n'est pas complètement l'inverse. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire l'échange du...
L'Internet.
Enfin, je crois qu'il y a le résultat, qui est le fait que à la fin de l'échange, chacun a une compréhension du terme de Thalès.
On gagne tous les deux.
Mais tu as oublié l'étape intermédiaire qui est les moyens de cet échange. Or, les moyens de cet échange, c'est justement les conditions sociales de l'éducation qui nous ramènent à l'économie. Et donc, par contre, je te rejoins tout à fait dans le fait que le conflit n'est qu'une étape intermédiaire. Bon, c'est comme dans la technique des plaques, ça se frotte un certain temps. Je pense que le conflit est nécessaire. Par contre, il faut que le conflit ne perdure pas éternellement. Et c'est là que la notion de contrat devient capitale. Mais je ne pense pas que ce soit tout à fait aussi l'inverse.
Alors, Charles, si tu permets, je vais un peu raffiner. Parce que autant je suis d'accord avec toi pour dire que dans l'échange du Thalès, puisque nous avons pris cet exemple, il faut des conditions. C'est-à-dire des conditions, disons, je ne sais pas moi, construire une classe, trouver un campus, mais tout ce que tu voudras. Bien. Mais, tout à l'heure, quand j'ai parlé de l'échange du billet de 100 dollars, par exemple, il fallait aussi trouver des conditions où tout le monde soit d'accord sur les monnaies d'échange, sur la stabilité de l'échange. C'est des conditions aussi compliquées que dans le premier cas. Donc, comme elles sont compliquées dans les deux cas, j'enlève les conditions et je présente les deux résultats.
Oui, mais justement, la vie, c'est pas seulement l'input et l'output, comme on le voyait sur un...
Il y a aussi le
système dedans. C'est aussi toute la mécanique intermédiaire. Et là, demain, je pense, on en verra d'autres exemples à propos du vivant.
Du vivant.
Je pense que dans l'histoire de la connaissance et des techniques, on trouvera beaucoup d'exemples où c'est de la technique qu'est née la connaissance, tout autant que de la technique qui est née de faire l'inverse. Quoi. Donc je crois qu'il y a un jeu un petit peu d'aller-retour. Je voulais simplement dire qu'il n'y a pas seulement le résultat, il y a finalement
le processus d'échange. J'aurais pu, si tu veux, au lieu de prendre le théorème de Thalès, de dire fais-moi voir comment tu répares la mobilette ou fais-moi voir comment on fait l'omelette aux champignons. La recette. Oui.
Les deux n'étant pas incompatibles, d'ailleurs.
Jean-Marc.
Je trouve que c'est un raisonnement un peu spécieux. Parce que dans votre histoire du billet de 100 dollars, il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas d'échange. Vous donnez 100 dollars, mais vous ne recevez rien.
C'est bien ce que j'ai dit. Ce n'est pas un échange, c'est un don. Je veux dire le don. Ouais. C'est-à-dire, dans un cas, quelqu'un a et l'autre n'a pas, et dans le second état du système, le premier qui avait n'a plus, et le second qui n'avait pas a. Eh bien, si on compare ces deux états avec le savoir, ça nous donne des résultats, non pas inverses, mais tout à fait différents.
Oui, madame, parce que c'est ce
celui qui donne a encore.
Ce qui s'est passé en réalité, c'est que vous avez donné 100 dollars à ce monsieur, vous étiez propriétaire des 100 dollars. Théorème de Thalès, vous n'êtes pas propriétaire.
Mais c'est justement ce que je dis. C'est-à-dire, précisément, le savoir est sans propriété. C'est ça que je veux démontrer. Et étant sans propriété, alors il peut se partager tant qu'on veut.
Il réside quelque part, c'est vrai, il réside.
Seulement, il réside quelque part. Donc, pardon, vous vouliez parler.
De technologie. Vous transférez à la fois le savoir
et
la technologie qui va et l'avoir.
Déjà au niveau technologique, est introduit un certain nombre de conditions, comme dirait Charles, où intervient l'économie et beaucoup d'échanges de biens, alors à ce moment-là, en capital.
Alors, à mon tour d'être caricatural, je dirais que tu as proposé un schéma. J'ai réagi, où on prenait les présupposés et les conséquences. Or, j'ai l'impression que le terrain de rencontre qui peut devenir le contrat social, c'est de se concentrer sur les flux.
Le système lui-même. Oui, les flux.
Les relations.
Les conduits par lesquels ça peut... Oui. Et là, il y a tout à faire, parce que c'est là où ça doit se faire. Et il y a des expériences qui se font qui sont intéressantes. Soit le téléenseignement entre le Nord et le Sud, mais même le télédiplôme entre le Nord et le Sud, de façon à favoriser rapidement des élites qui puissent après reprendre la technologie, etc., à condition que le modèle qui est donné ne soit pas forcément le modèle figé dans lequel on est nous aujourd'hui. Sinon, on ne fait que déplacer le problème et l'augmenter encore. Il faut donc aussi, en même temps, inventer des solutions de vie qui soient un peu différentes de celles qui ont provoqué le conflit. Sinon, on n'avancera pas.
Parfait. Caïmine, oui, dernière question par Caïmine.
En fait, moi, je suis fondamentalement optimiste et je pense que ce partage, il est déjà parti. Yves parlait tout à l'heure que ce sera le siècle de l'éthique. Je pense qu'au niveau économique, le non-profit va être profitable. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est très important à voir, c'est que ce partage aujourd'hui, il va beaucoup plus loin que ça. C'est que pour la première fois, par exemple, il y a à peu près un an, on n'a jamais vu avant des sociétés qui donnaient des produits à des consommateurs et qui leur payaient en plus le fait qu'ils l'utilisent. C'est extraordinaire. Donc, ce processus est en marche. C'est-à-dire que vous avez certaines sociétés d'Internet. Le fait d'utiliser l'environnement, vous êtes payé en plus. Donc, ce partage devient quelque chose d'important. Bon, maintenant, il peut y avoir de tout et n'importe quoi, mais il faut au moins qu'il y ait ce support de base. Sinon, on pourrait parler de partage, mais on n'aurait pas le moyen de le faire. Le dernier truc que je voulais dire, c'est qu'il y a conflit ou contrat à partir du moment où on est au minimum deux. Mais si on n'était qu'un, il n'y a pas de conflit et de contrat. Et je pense que cette séparation, peut-être que l'être humain est peut-être trop prétentieux, de se détacher de la nature, dire moi je suis là et la nature elle est là. Et je pense que tant qu'on regarde les choses comme ça, on continuera à avoir des problèmes si on ne considère pas que tout est un ensemble. Et à partir de là, bah, nous-mêmes on se règle nos problèmes, qu'on a un bobo, on va se le faire parce que c'est nous. Donc la démarche analytique de segmentation nous permet de comprendre des choses, mais elle ne permet pas de résoudre les problèmes. C'est une très grosse différence.
Et en poussant le système aux limites, on peut dire que si on ne fait pas ça et si on continue, eh bien, il y a toute une discussion maintenant sur le fait qu'on va peut-être rendre notre système et notre planète invivables et que donc on s'en ira coloniser ailleurs et trouver des conditions de vie. Et vous savez, beaucoup de gens, comme tu le sais, travaillent dessus extrêmement sérieusement avec des scénarios d'ailleurs très bien financés pour étudier ce genre de choses. Alors, mais c'est vrai, ce que je tenais à dire dès le début, c'est que tout est dans tout. Quand on voit la sphère terrestre est tellement petite et ce que l'on est, nous, à la surface de cet engin qui est isolé totalement du reste, ça devrait rendre les gens un petit peu raisonnables.
Parfait. Puisque cet espace de la salle est devenu invivable, je vous propose qu'on se transporte au restaurant.
Consommer de l'énergie un peu. Alors.